France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, remonte le temps, l'histoire d'un procès impossible, celui du roi Louis XVI. C'est le récit d'un basculement, celui d'un monarque devenu justiciable et d'un monde qui s'effondre pendant qu'un autre tente de se construire. Nous sommes en décembre 1792. Depuis quelques semaines, la France est devenue une république. Le roi n'est plus roi. Il est désormais le lambda Louis Capet, prisonnier à la Tour du Temple. Le prisonnier qu'il est passera en jugement devant la Convention, organe politique, pour le coup, devient tribunal. En vérité, les députés déguisés en juges se demandent s'il faut condamner et exécuter le roi. Les plus lucides veulent sa mort, conscients de l'adversité des monarchies qui entourent la France et des nobles qui espèrent encore. Il faut tuer cet espoir, donc tuer le roi. Au fil des jours, une certitude s'impose. Ce procès n'est pas seulement celui de Louis XVI, c'est le procès de l'Ancien Régime et c'est l'acte de naissance de la République qui est aussi fille de la terreur. Notre invité aujourd'hui est Emmanuel Varesquiel, auteur du livre « Il nous fallait des mythes » publié en 2024 aux éditions Talendier. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Florence de Talouette. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Janvier 1793, Paris. Et la brume s'accroche au toit. La neige a fondu, mais le sol reste gorgé d'eau. Ça empeste l'hiver, le cuir mouillé et le métal. Il est un peu plus de 10 heures quand le carrosse s'arrête, place de la Révolution actuelle, place de la Concorde. À l'intérieur, Louis XVI. Officiellement, Louis Capet, citoyen ordinaire. Par la fenêtre, il jette un œil. Autour de lui, Paris est quadrillé. La place est entièrement bouclée. Des soldats, des cavaliers, des canons, des rangées de fusils et de tambours. Un dispositif impressionnant pour empêcher le moindre incident. Au centre, à l'endroit exact où trônait encore il y a quelques mois la statue de son grand-père, Louis XV, s'élève la guillotine, juste en face du palais des Tuileries. Le symbole est limpide. C'est la monarchie qu'on abat. Louis descend du carrosse. Il porte une redingote couleur brun clair, dite cheveux d'arène, un gilet blanc, une culotte grise, pas de perruque, pas de décoration, non, rien. Samson, le bourreau en chef, s'approche. Le regard blême et la mâchoire crispée, il tend les cordes au condamné. Ce dernier a un mouvement de recul. « Ce n'est pas nécessaire, dit-il. » Mais Samson insiste, ce sont les ordres de la Convention. Alors, le roi déchu tend les poignets, puis il entreprend la montée des marches de l'échafaud, une à une, 10 en tout. Il est droit, le condamné. Il ne vacille pas. Arrivé en haut, il lève les yeux. Paris retient son souffle. Et d'une voix puissante, Louis Capet s'adresse autant à la foule qu'au ciel. Le film La Révolution française, datant de 1989, en propose une reconstitution saisissante.
Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.
En bas, Santerre, commandant général de la garde nationale, fait un signe. Les tambours se mettent à battre, fort, très fort. La voix de Louis est couverte. Il est maintenant couché sur la planche, sanglé, le cou offert. Le fils de Samson actionne la guillotine, le coup prétombe. Il est 10h22. Le bourreau saisit alors la tête de Louis XVI par les cheveux. Du sang gicle sur ses manches. Il la brandit bien haut, cette tête, et fait le tour de la plateforme. Le peuple entier est sommé de regarder. Alors le silence se brise. Des cris retentissent. Vive la République, vive la nation. Puis des hommes s'approchent. Ils veulent garder une trace. Ils sortent des mouchoirs, les plongent dans le sang du condamné. Plusieurs tendent leurs piques, leurs baïonnettes, leurs sabres pour les marquer du sang du roi. Samson agacé déclare « Attendez donc, je vais vous donner un baquet où vous pourrez les tremper plus aisément. » Alors un citoyen plonge le bras dans la cuve et ressort la main pleine de sang et il hurle. « On nous a menacé que le sang de Louis retomberait sur nos têtes, et bien qu'il y retombe. » Louis Capet a tant de fois lavé ses mains dans le nôtre. Républicain, le sang d'un roi porte bonheur. Et c'est la ruée. On arrache des morceaux de l'habit, une mèche de cheveux, un bouton, un lambeau de tissu. Enfin, tout est bon à prendre. Chacun veut sa part. Des morceaux de monarchie, comme autant de reliques. Le corps est placé dans une bière de bois blanc, la tête entre les jambes, selon l'usage. Direction, le cimetière de la Madeleine. Voilà, le roi est mort, vive la République. Mais par quel incroyable vertige de l'histoire, la monarchie française millénaire s'est-elle effondrée? Et comment cette transgression absolue du régicide a-t-elle été possible? Quelques mois plus tôt, sur les murs de Paris, des placards fleurissent. Abat le tyran. Oui, le peuple gronde. Oui, la colère monte. Louis XVI est depuis septembre 1791 roi constitutionnel. Ce qui veut dire que son pouvoir jusque-là absolu est désormais limité par une constitution qui lui impose des règles strictes. Mais il lui reste un levier puissant, le droit de veto, censé être utilisé avec parcimonie. Or, Louis XVI s'en sert à la chaîne, bloquant systématiquement les lois votées par l'Assemblée. Non à la loi qui fait des émigrés ces nobles qui ont fui la révolution des suspects. Non à la loi sur les prêtres réfractaires, ces hommes d'église qui refusent de prêter serment à la nouvelle constitution civile du clergé. Et surtout, non à la loi qui prévoit de mobiliser 20 000 gardes nationaux autour de Paris pour défendre les intérêts de la révolution contre l'ennemi. Et de fait, l'ennemi approche. Aux frontières, les armées prussiennes et autrichiennes se rassemblent. Alors, dans les rangs révolutionnaires, le soupçon enfle. Louis XVI semble vouloir saboter pièce par pièce l'édifice constitutionnel qu'il prétend pourtant incarner. Et s'il voulait perdre la guerre pour restaurer son trône? Pour les Parisiens, c'en est trop. Le roi joue contre la révolution. Le 10 août 1792, à la lueur des chandelles, les sans-culottes affûtent leur pic. Dans les quartiers populaires, on fond les objets en métal pour faire des balles. À l'hôtel de ville, qu'on appelle alors la maison commune, les sections de Paris se prononcent. Et l'ordre du jour est très clair, marcher sur le palais des Tuileries. Vers 1h, le tocsin sonne. Les fédérés venus de Marseille, de Bretagne, les gardes nationaux, les sections parisiennes, tous et toutes convergent vers le château. Louis XVI, lui, passe en revue ses troupes. Les gardes suisses sont en rang, mais trop peu nombreux. Le roi comprend alors que la partie est perdue. Il hésite. Faut-il fuir, résister? Il choisit de se réfugier à l'Assemblée législative. Un ultime geste pour sauver les apparences. Derrière lui, les insurgés lancent l'assaut. Les gardes suisses ripostent. C'est un carnage. Les escaliers, les jardins, les galeries des Tuileries se couvrent de sang. Et dans le fracas des fusillades, l'Assemblée vote la suspension du roi dans ses fonctions. Cette scène est reconstituée dans le film « Un peuple et son roi », réalisé en 2018 par Pierre Scholler.
Article 1er. Le peuple français est invité à former une convention nationale.
C'est la fin des 13.
Article 2. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que la Convention nationale ait prononcé sur les mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité.
Trois jours plus tard, le 13 août 1792, Louis XVI est transféré avec sa famille à la Tour du Temple, une ancienne forteresse médiévale bâtie par les Templiers et donc devenue prison. Le mobilier est réduit au strict minimum. Rideaux minces, chaises droites, matelas de crin. Deux commissaires sont présents jour et nuit pour surveiller chaque geste des détenus. Terminé le droit de vie et de mort sur ces sujets, le confort, la noria de domestiques à son service, les salamandres des courtisans, les agapes à n'en plus finir pendant que le peuple crève de faim. Dans cette vie sous cloche, une seule présence réconforte le roi, Cléry, son valet de chambre. Fidèle, discret, il veille sur lui, l'aide à s'habiller, à faire sa toilette, lui sert ses repas. Et Louis XVI s'accroche à la routine. Le matin, il lit, Toujours le même livre d'ailleurs, L'imitation de Jésus-Christ. Il joue aux échecs avec le dauphin, lui enseigne la géographie, les grandes lois de la monarchie. Il joue parfois au tric-trac et mange peu. Dehors, Paris gronde, la révolution poursuit sa marche, implacable.
Messieurs, un peu de silence. Messieurs, en ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois, proclamé à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. Je propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je propose qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française.
Le 21 septembre 1792, la Convention tient sa première séance. Cette nouvelle assemblée, élue au suffrage universel masculin, proclame la République. Dès lors, une question s'impose aux députés fraîchement élus. Que faire du roi déchu ? Faut-il le juger ? Et si oui, devant qui ? Selon quelle procédure ? Et surtout, pour quel crime ? Car a-t-il vraiment trahi ou s'est-il contenté de gouverner dans les limites de la Constitution ? Un comité de législation est nommé pour examiner cette question. Le rapporteur choisi, Jean Mayle, député modéré, monte à la tribune le 7 novembre pour tenter de justifier la mise en place d'un procès. Et il rappelle un principe fondamental de la Constitution de 1791, l'inviolabilité du roi, c'est-à-dire son irresponsabilité pénale. Seuls ses ministres peuvent être jugés. Mais, affirme-t-il, cette inviolabilité est tombée avec la monarchie, avec la suspension de la Constitution le 10 août 1792. À partir de là, Louis XVI redevient donc un simple citoyen. Et comme tout citoyen, il peut être jugé. Et puis, conclut Jean Mayle, un roi ne peut pas invoquer une loi qu'il a lui-même trahie. Si Louis XVI a conspiré contre la Constitution, alors cette même Constitution ne peut plus le protéger. C'est donc à la Convention de délibérer sur la forme que prendra le jugement. Dans l'hémicycle, les applaudissements fusent. Pourtant, derrière la rigueur apparente du raisonnement de Mayle, un flou persiste. Ce dernier affirme en effet qu'il faut s'en tenir à la Constitution de 1791. Bien. Mais il reconnaît lui-même qu'elle n'existe plus, que le texte est caduque depuis que la monarchie constitutionnelle a été abolie. Alors, de quelle légalité parle-t-on ? C'est bien tout le paradoxe. S'appuyer sur une loi qu'on vient d'abolir. Très vite, les oppositions se lèvent des deux côtés de l'hémicycle. Autant chez les Girondins, la droite modérée de l'Assemblée, que chez les Montagnards, la gauche, disons, radicale. Et même au centre, dans ce marais d'indécis. Le premier à soulever la question, c'est Morisson, député de la Vendée et élu du Marais.
Citoyens, je sens mon âme pénétrée de la plus forte indignation lorsque je rassemble dans mon esprit les crimes, les perfidies, les atrocités dont Louis XVI s'est rendu coupable. Mais je dois renoncer à moi-même pour ne consulter que les dispositions de nos lois. Comme des juges impassibles, nous consultons froidement notre code pénal. Eh bien, ce code ne contient aucune disposition qui puisse être appliquée à Louis XVI, puisqu'au temps de ses crimes, il existait une loi positive qui portait une exception en sa faveur. Je veux parler de la Constitution. Si le 10 août, j'avais trouvé Louis XVI, le poignard à la main, couvert du sang de mes frères, si j'avais su ce jour-là que c'était lui qui avait donné l'ordre d'égorger les citoyens, j'aurais été moi-même l'arraché à la vie. Personne n'aurait osé me le contester. Mais il s'est passé plusieurs mois depuis les derniers actes de sa trahison. Il est maintenant sans armes et Louis XVI ne peut tomber que sous le glaive de la loi qui ne prononce rien à son égard. Je propose donc le décret suivant. Article 1er. Louis XVI est banni à perpétuité du territoire de la République française. Article 2. Si après son expulsion de la France, Louis XVI rentre sur son territoire, il sera puni de mort.
En somme, Morrison admet que le roi est peut-être coupable, mais qu'on ne peut juger un homme pour des actes couverts par une loi au moment où ils ont eu lieu. C'est la fameuse non-rétroactivité des lois, l'un des piliers de l'état de droit aujourd'hui. Et c'est le début d'un mois de débats passionnés à la Convention. Un mois de joutes oratoires, de passes d'armes violentes, où s'affrontent toutes les visions de la Révolution. Justice ou vengeance, droit ou nécessité, procédure ou souveraineté du peuple. Parmi les orateurs qui se succèdent à la tribune, un jeune homme attire l'attention. Il a 25 ans, une silhouette androgyne, presque frêle. Des mèches soigneusement enroulées sur un visage d'ange, mais dans le regard, une détermination glacée, un orgueil sans faille. Il s'appelle Louis-Antoine de Saint-Just.
J'entreprends, citoyen, de prouver que le roi peut être jugé. Que l'opinion de Morrison qui conserve l'inviolabilité et celle du comité qui veut qu'on le juge en citoyen sont également fausses. Et que le roi doit être jugé dans des principes qui ne tiennent ni de l'un ni de l'autre. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu'à le combattre, et que les formes de la procédure ne sont point dans la loi civile, mais dans la loi du droit des gens. C'est un barbare, c'est un étranger prisonnier de guerre. Le traître n'était pas le roi des Français, mais le roi de quelques conjurés. Il faisait des levées secrètes de troupes, avait des magistrats particuliers. Il regardait les citoyens comme ses esclaves. Il avait proscrit secrètement tout genre de bien et de courage. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ de Mars, de Tournai, des Tuileries. Quel ennemi, quel étranger nous a fait plus de mal ? On cherche à remuer la pitié. On achètera bientôt des larmes. On fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre même.
Voilà, le ton est donné chez les montagnards. Mais très vite, le débat s'enlise. Les argumentations juridiques s'empilent comme autant d'arguties. Et les prises de parole se succèdent. Mais aucune ligne claire ne se dégage. Le 20 novembre, un événement vient tout faire basculer. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Roland, fait déposer à la Convention plusieurs cartons de documents. Des papiers extraits d'une cache secrète aux Tuileries, l'armoire de fer. Un endroit aménagé par Louis XVI lui-même, derrière un mur du château. L'effet est immédiat. Une commission est formée dans l'urgence. Elle épluche les 625 documents trouvés et confirme ce que beaucoup pressentaient. Louis XVI a trahi. Oui, ces papiers prouvent son double jeu, son rôle dans la fuite à Varennes, ses financements secrets pour soutenir des actions contre-révolutionnaires, ses liens continus avec les nobles émigrés, beaucoup en Angleterre, cette monarchie qui s'étrangle d'en voir une autre abolie. En tout cas, la responsabilité du roi est claire, désormais. Dès lors, et pour beaucoup, surtout pour les montagnards, les parisiens, les militants de section et les sans-culottes, il ne reste qu'une chose à faire, fixer la peine contre le traître. Cela dit, pouvait-on imaginer le roi soutenir la révolution dont le but est tout de même d'abolir la monarchie ? C'est dans ce contexte que le 3 décembre, Robespierre entre en scène.
Il n'y a point de procès à faire. Louis n'est point un accusé et vous n'êtes point des juges. Vous ne pouvez être que des hommes d'État et des représentants de la nation. Proposer de faire le procès à Louis XVI, de quelque manière que ce puisse être, c'est une idée contre-révolutionnaire, car c'est mettre la révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être encore l'objet d'un procès, il peut être innocent, que dis-je ? Il est présumé l'être jusqu'à ce qu'il soit jugé. Si Louis peut être présumé innocent, que devient la révolution ? Le procès du tyran, c'est l'insurrection. Son jugement, c'est la chute de sa puissance. Sa peine, celle qu'exige la liberté du peuple. Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires. Ils ne rendent point de sentence. Ils lancent la foudre. Ils ne condamnent pas les rois. Ils les replongent dans le néant. Et cette justice vaut bien celle des tribunaux. Je prononce à regret cette fatale vérité. Mais Louis doit mourir. Parce qu'il faut que la patrie vive.
Robespierre continue de tenir la ligne des montagnards. Le roi a été jugé par le soulèvement du peuple le 10 août. Donc, il faut fixer la peine. Mais du côté des Girondins, ce n'est pas si évident. Non, pour eux, la Convention doit juger le roi selon une forme légale. Impossible de laisser l'arbitraire ou la violence prendre le dessus. Ce serait la menace d'un nouveau despotisme. C'est Pétion, figure du camp légaliste, qui s'avance. Il reprend presque mot pour mot les conclusions du comité de législation du début novembre. Et cette fois, il convainc. Résultat, la Convention vote et décrète qu'il y aura bel et bien un jugement, n'en déplaise à Robespierre. Une nouvelle commission est donc chargée de préparer l'acte des crimes reprochés à Louis, en d'autres termes, les chefs d'accusation. Monsieur Capet, ex-Louis XVI, sera invité à répondre. Le procès, cette fois, est officiellement lancé. Nous sommes le 6 décembre 1792. Le 6 décembre 1792, quelques heures après le vote de la Convention décidant que Louis XVI sera jugé, deux femmes franchissent les grilles de la prison du Temple. L'une d'elles, Élisabeth du Verger, est l'épouse de Cléry, le valet de chambre de Louis XVI. Elle demande à voir son mari. Bon, la visite est autorisée. Dans une petite salle du Temple, Cléry, sa femme et la seconde visiteuse se retrouvent. Ils parlent à voix haute de linge et d'effets personnels à monter. La seconde femme s'approche de Cléry et lui glisse à l'oreille. Mardi prochain, conduit le roi à la Convention. Le procès commence. 5 jours plus tard, à l'aube, la générale résonne sous les murs du Temple. Ce roulement de tambour est le signal officiel. À l'étage, le roi se lève. À 12h45, le maire de Paris entre, entouré de soldats, lit solennellement l'ordre de comparution. Louis XVI écoute en silence, puis se lève. En bas, une voiture l'attend. Il y monte sans un mot. À l'avant, des cavaliers ouvrent la marche. À l'arrière, des haies de soldats, baïonnettes au canon, visage fermé, sécurisent le convoi. Le cortège s'ébranle, lentement, dans un Paris aux rues vides et aux boutiques closes. Une tentative d'enlèvement est tellement redoutée. Mais il ne se passe rien. Lorsque Louis XVI franchit les portes du manège, ce vaste bâtiment voisin des Tuileries, où siège la Convention, un silence de mort s'abat sur les 749 députés. Oui, tous restent figés, saisis par la vision de cet homme qui s'avance vers la barre sans trembler. Louis n'a plus rien du monarque, c'est juste un homme amaigri. Le moment de sidération passé, le secrétaire de l'Assemblée commence la lecture de l'acte d'accusation. 33 chefs, tous extraits des événements passés. Varennes, Léveto, le manifeste de Brunswick, les massacres du 10 août, la collision avec l'étranger, les documents de l'armoire de fer. Louis est accusé de conspiration contre la liberté, de crime contre la sûreté de l'État et de trahison. Puis le président passe à l'interrogatoire.
Le peuple français vous accuse d'avoir commis une multitude de crimes pour établir votre tyrannie en détruisant sa liberté. Vous avez, le 20 juin 1789, attenté à la souveraineté du peuple en suspendant les assemblées de ses représentants. Qu'avez-vous à répondre ?
Il n'existait pas de loi qui me l'empêchait.
Vous avez fait marcher une armée contre les citoyens de Paris. Vous n'avez éloigné cette armée que lorsque la prise de la Bastille et l'insurrection générale vous ont appris que le peuple était victorieux. Qu'avez-vous à répondre ?
J'étais maître de faire marcher des troupes dans ce temps-là, mais je n'ai jamais eu l'intention de répandre le sang.
Vous avez eu dans Paris des compagnies particulières chargées d'opérer des mouvements utiles à vos projets de contre-révolution. Qu'avez-vous à répondre ?
Jamais idée de contre-révolution n'est entrée dans ma tête.
Vous avez voulu, par des sommes considérables, suborner plusieurs membres des assemblées constituantes et législatives. Qu'avez-vous à répondre ?
Il y a plusieurs personnes qui se sont présentées avec des projets pareils, mais je les ai éloignées.
Louis répond calmement, brièvement. Il refuse d'admettre toute trahison. Il répète qu'il n'a fait qu'user de son droit de veto. Il assure qu'il n'a jamais eu l'intention de fuir, ni d'armer contre la nation. Il revendique même sa fidélité à la Constitution. Il souligne qu'elle porte un jugement rétroactif, que personne ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme un crime à l'époque. Parole d'un roi, soit dit au passage, qui, comme tous ses prédécesseurs, a envoyé en prison ou à l'échafaud des milliers de personnes sans jugement. À 17h, le président suspend l'audience. Dehors, des cris se font entendre. Vive la nation, vive la République. Des bribes de Marseillaise également. Le roi est reconduit au temple où, ce soir-là, il avale 6 côtelettes, un morceau de volaille, des œufs et 2 verres de vin blanc, un souper royal. La Convention autorise Louis à se défendre. 3 avocats sont désignés. Le 18 décembre, Raymond de XVI franchit les grilles du temple. Derrière lui, Tronchet, puis Malesherbes, le vieux sage, qui a insisté pour défendre son roi, quitte à risquer sa vie. Dans la petite chambre transformée en cabinet, les dossiers s'empilent. Et les trois hommes s'affairent. Journaux, décrets, textes constitutionnels, rien n'échappe à leur regard. Les plumes grattent, les bougies s'épuisent. La stratégie est simple. Refuser l'émotion, bannir le pathos. L'arme, c'est le droit. Rien que le droit. Donc, sans haine. Ainsi, chaque geste, chaque décision du roi doit être replacé dans son cadre légal. Pour rappeler ces éléments, c'est Raymond de Sèze, à l'éloquence redoutable, qui se charge de la plaidoirie. Ce matin du 26 décembre, pendant 2h30, il déroule. Sa défense est construite en deux temps. Pour les faits antérieurs à 1791, le roi est considéré comme n'ayant de compte à rendre qu'à Dieu, en vertu du droit divin. Pour la période post-1791, il affirme que la Constitution fait des ministres les seuls responsables des actes de gouvernement. Reste l'argument majeur, lancé comme un défi par Raymond de Sèze, la Convention est-elle seulement légitime à juger le roi ?
Je cherche parmi vous des juges, et je n'y vois que des accusateurs. Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et c'est vous-même qui l'accusez. Vous avez déjà émis votre vœu. Louis sera donc le seul Français pour lequel il n'existe aucune loi, ni aucune forme. Français, entendez d'avance l'histoire qui redira à la renommée. Louis était monté sur le trône à 20 ans, et à 20 ans, il donna l'exemple des mœurs. Il n'y porta aucune faiblesse coupable, ni aucune passion corruptrice. Il fut économe, juste et sévère. Il s'y montra toujours l'ami constant du peuple. Le peuple désirait la destruction d'un impôt désastreux qui pesait sur lui. Il le détruisit. Le peuple demandait l'abolition de la servitude. Il commença par l'abolir lui-même dans ses domaines. Le peuple sollicitait des réformes dans la législation criminelle pour l'adoucissement du sort des accusés. Il fit ces réformes. Le peuple voulait que des milliers de Français, que la rigueur de nos usages avait privés jusqu'alors des droits qui appartiennent aux citoyens, acquissent ces droits ou les recouvrassent. Il les en fit jouir par ses lois. Le peuple voulut la liberté. Il la lui donna. Citoyens, je n'achève pas. Je m'arrête devant l'histoire. Songez qu'elle jugera votre jugement et que le sien sera celui des siècles.
Ce soir-là, Louis XVI mesure l'inéluctable de son destin. Ça sent le sapin, comme on dirait aujourd'hui. Mais une dernière question divise l'Assemblée. Le jugement doit-il être soumis à l'ensemble du peuple français ? La délégation de pouvoir que les députés détiennent suffit-elle pour prononcer sans appel un verdict aussi grave ? Les Girondins, qui décidément ont bien du mal à divorcer de la monarchie, défendent l'idée d'un appel au peuple. Pour eux, c'est une question de légitimité démocratique. Et peut-être, et surtout d'ailleurs, un ultime espoir. Les départements plus modérés que Paris pourraient épargner le roi. Mais les montagnards s'y opposent avec fermeté. Pour eux, la Convention tire sa légitimité du suffrage universel. Elle n'a de compte à rendre à personne. Le 15 janvier, la Convention est au complet. Une tension sourde emplit la salle. Chacun sait que son vote peut marquer l'histoire à jamais. Et pas seulement de France. Et ce jour-là, ils ne votent pas encore la peine. Ils doivent d'abord trancher deux questions préalables. 1. Louis Capet, ci-devant roi des Français, est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la sûreté de l'État ? Sur 749 députés inscrits, 691 votent oui. Louis est donc jugé coupable. 2. Le jugement qui sera rendu sera-t-il soumis à la ratification du peuple réuni dans ses assemblées primaires ? 424 députés disent non, 287 votent oui. L'appel au peuple est donc rejeté. La Convention est seule compétente pour prononcer la peine. Le lendemain, le moment est venu. Quelle peine, Louis, ci-devant roi des Français, encourt-il ? Les 721 députés sont appelés un à un, par ordre alphabétique, pour répondre à la question. La scène est longue, solennelle, presque irréelle.
C'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi, je vote la mort.
Collot d'Herbois, La mort, dans les 24 heures.
Vergniaud.
La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution.
Lindé.
Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort.
Marat.
La mort.
Saint-Just.
La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort.
Brissot.
La mort.
Avec sursis. Robespierre.
Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés.
La mort.
Danton.
La mort.
Le verdict est serré. Pour la mort, 387. Pour la détention ou la mort conditionnelle, 334. Absent et non votant, 28. Enfin, quatrième et dernier appel nominal. Pour répondre à cette question, sera-t-il sursis à l'exécution de Louis Capet, oui ou non ? Épuisés après une nuit blanche, les députés débattent encore. Puis, le coup prêt-on, si je puis dire, 380 voix contre le sursis, 310 pour. Il n'y aura donc ni report, ni appel. Le roi sera exécuté sans délai. Dont acte. Le 20 janvier, à 3 heures de l'après-midi, une délégation arrive au temple. Le ministre de la Justice lit le verdict au roi. La Convention nationale a décrété que l'exécution aura lieu demain à 10 heures. Louis écoute, impassible, et remet notre ministre.
Je demande un délai de 3 jours pour pouvoir me préparer à paraître devant Dieu. Je demande, pour cela, de pouvoir voir librement la personne que j'indiquerai au commissaire de la commune, et que cette personne soit à l'abri de toute crainte et de toute inquiétude pour cet acte de charité qu'elle remplira auprès de moi. Je demande d'être délivré de la surveillance perpétuelle que le Conseil a établie depuis quelques jours. Je demande, dans cet intervalle, à pouvoir voir ma famille quand je le demanderai, et sans témoin. Je désirerais que la Convention nationale s'occupât tout de suite du sort de ma famille et qu'elle lui permît de se retirer librement où elle le jugerait à propos. Je recommande à la bienfaisance de la nation toutes les personnes qui m'étaient attachées. Fait à la tour du Temple, le 20 janvier 1793, Louis.
À 20h30 précise, une dernière entrevue est organisée entre Louis et sa famille dans une des pièces du Temple. Sur la table, une carafe d'eau et quelques verres ont été posés. Le poêle en faïence peine à réchauffer l'atmosphère glacée. Marie-Antoinette entre, elle tient son fils, Louis-Charles, par la main. Le roi, en se levant, manque de s'effondrer. Derrière la cloison vitrée, séparée par un rideau entrouvert, 4 gardes municipaux observent l'entrevue. Nul ne sait ce qui se dit. Mais au moment de se séparer, Louis promet à sa famille qu'il la reverra le lendemain. Marie-Antoinette répète alors d'une voix tremblante. « Vous nous le promettez ?»« Oui, je vous le promets. »« Pourquoi pas à 7h ?» insiste-t-elle. « Eh bien oui, à 7h. Adieu. » Quand ce lundi 21 janvier 1793, Louis se lève, Paris est encore endormi. Il est rejoint par l'abbé Edgeworth, son confesseur. Tous deux se retirent dans l'oratoire aménagé dans un petit réduit transformé en chapelle. Mais très vite, ils sont interrompus par des municipaux qui entrent à tout instant, prétextant une vérification, un souci, un ordre. En vérité, ils redoutent un suicide. Louis les voit faire et, se tournant vers Edgeworth, s'énerve. Ces gens-là voient partout des poignards et du poison. Ils craignent que je me tue. Hélas, ils me connaissent bien mal. Me tuer serait une faiblesse. Vers 8 heures, la tension monte d'un cran. La générale bat dans tout Paris. Un détachement de gendarmes pénètre avec fracas dans la cour d'honneur du temple. On distingue la voix sèche d'un officier. L'heure approche. C'est alors que l'abbé conseille au roi de renoncer à revoir sa famille. Ce serait, dit-il, une épreuve trop douloureuse. Alors il renonce. À 8h30, le général Santerre frappe à la porte du cabinet. Louis ouvre lui-même et, tout en le fixant, affirme « Je suis en affaire, attendez-moi. Dans quelques minutes, je serai à vous. » Il referme la porte, se retourne vers Edgeworth et déclare « Tout est consommé. Donnez-moi votre dernière bénédiction et priez Dieu qu'il me soutienne jusqu'au bout. » Entre deux haies de soldats en armes, Louis sort. La place de la Révolution l'attend. Ce jour-là, la monarchie s'achève dans le silence d'une lame. La République, elle, reste à construire. Comme le disait Gramsci, l'ancien monde disparaît, le nouveau peine à réapparaître. Dans ce clair-obscur, naissent les monstres. Les années suivantes le confirmeront.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le procès de Louis XVI, dont nous parlons avec l'historien Emmanuel de Varesquiel. Bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Vous êtes l'auteur du livre, entre autres, beaucoup de livres, le dernier. Il nous fallait des mythes, la Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Non seulement vous dites les mythes, mais vous dites il nous fallait des mythes. Qu'est-ce que ça veut dire, il nous fallait des mythes?
Ça veut dire qu'il fallait à la Révolution construire des événements fondateurs et légitimants de ce qui allait devenir la République, qui est un régime absolument inouï quand on y pense lorsqu'elle est proclamée le 21 septembre 1792, parce qu'elle succède à 1000 années de monarchie. Et donc c'est un régime qui n'est pas du tout évident. Et pour le construire, le solidifier et lui donner une base légitimante, on construit des récits d'édification autour d'événements qui deviennent peu à peu fondateurs de la Révolution. Le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, par lesquels les députés jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, la fête de la Fédération, le 14 juillet de l'année suivante. Et puis, dans les symboles, les lieux, les événements que j'ai choisis, à l'analyse de leurs déformations successives de mémoire dans le temps long de notre histoire contemporaine, c'est-à-dire jusqu'à nos jours, quels sont au fond nos héritages révolutionnaires. J'ai pris aussi des événements qui relèvent de la terreur, comme la guillotine, ou comme le procès, non pas de Louis XVI, mais de Marie-Antoinette, mais en filigrane, je parle évidemment du procès de Louis XVI, qui sont des événements fondateurs de la naissance de la souveraineté du peuple. Et je termine par une mise en comparaison des deux batailles qui ouvrent et ferment à la fois ces guerres révolutionnaires qui vont durer un quart de siècle, qui sont cette bataille de Valmy, qui est une canonnade le 20 septembre. Personne ne savait à Paris, lorsqu'on proclame la République le 21 septembre à la Convention, que Valmy avait eu lieu la veille même, le 20 septembre. Et Valmy, c'est un coup d'arrêt donné à l'avancée des troupes coalisées contre la République, contre la France, qui n'est pas encore une République, conduite par le duc de Brunswick. Et puis, la bataille qui ferme ce quart de siècle de guerre révolutionnaire, c'est la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Et donc, je tente une mise en comparaison de ces deux batailles.
D'accord. Et la Marseillaise fait partie, par les paroles et la musique, de cette construction?
Bien entendu, la Marseillaise et les trois couleurs. On a mis beaucoup de temps à les définir. On ne savait pas très bien ce qu'elles étaient au début. Elles ne deviennent trois couleurs que tardivement, et puis elles le sont à l'envers. Les républicains sont doués d'un curieux strabisme divergent sur les couleurs nationales, puisqu'on commence par les inventer dans le sens contraire. Rouge, blanc, bleu, puis à partir de 1848, bleu, blanc, rouge.
Rouge, c'est révolution, bleu, c'est république, c'est
ça ? Le récit qui est construit, je parle des constructions de mémoire hein, dans ce livre. Le récit qui est construit et qui est donné par Lafayette, qui probablement ne l'a jamais proposé aux députés de la Commune de Paris en 1789, c'est de procéder à travers les symboles à une réconciliation nationale entre le blanc monarchique d'un côté et les couleurs de Paris qui mène la Révolution en 1789, qui sont le rouge et le bleu. En réalité, c'est un récit qui est donné a posteriori et qui n'a jamais été, quand on lit les procès-verbaux des délibérations des électeurs de la Commune de Paris, à aucun moment on ne trouve cette intervention de Lafayette. Donc l'histoire, c'est à la fois des événements tels qu'ils ont été vécus à chaud par les protagonistes de ces événements, et ce sont aussi des constructions mémorielles qui apparaissent par nécessité politique et sociale à la construction de régimes nouveaux.
Alors, vous nous inquiétez un peu, parce qu'on se dit, lorsque disent les historiens, il ne faut pas forcément le croire. Ce qui n'est pas vrai, évidemment.
Non, bien sûr que non. Au contraire, le travail de l'historien, c'est un travail d'analyse dans le temps de l'histoire, dans le temps long de l'histoire, entre les événements tels qu'ils ont été vécus à chaud et tels qu'ils sont déformés, reconstruits.
C'est le fameux relativisme.
Alors, dire ça comme ça, mais le travail de l'historien est au cœur de ces rapports, parfois conflictuels, de reflets entre l'histoire et la mémoire, ou les mémoires de l'histoire. La mémoire, c'est de la subjectivité, c'est du parti pris, c'est de la morale. L'histoire, c'est de la distance, c'est de l'analyse critique. Donc tout le travail, la mémoire nous cache l'histoire, et en même temps, elle appartient à l'histoire. Et tout le travail de l'historien, c'est précisément de restituer ces mémoires qui font qu'un événement ne cesse jamais de se prolonger, de se continuer à travers ces mémoires parfois construites, volontaires, et qui sont parfois des mémoires personnelles. Nous avons tous notre cabinet de curiosité dans notre maison, c'est-à-dire une mémoire personnelle qui est faite de souvenirs d'enfance que l'on attrape dans les filets de nos rencontres, de nos lectures, de nos conversations. Et ce sont des mémoires en général de parti pris. Donc le travail de l'historien, c'est de traverser le miroir de ces mémoires pour arriver à l'histoire. Voilà.
Oh, c'est joli, belle phrase. Se dit au passage. Est-ce que, par rapport à tout ce que vous venez de dire, le procès de Louis XVI coche toutes les cases ?
Alors, le procès de Louis XVI a été, au fond, un procès qui divise dans, à la fois, les clivages qui existaient déjà, bien entendu, avant 1792, entre la Révolution et la contre-révolution, c'est-à-dire que le procès et l'exécution du roi va marquer un clivage extrêmement brutal entre une conception d'un roi saint et martyr, dont le sang retombe sur la tête des Français, et une conception d'une expiation des fautes du roi par le sang du roi, et au fond, une conception qui fait de la guillotine une sorte d'autel métaphorique d'un renversement de souveraineté, de la souveraineté du roi à la souveraineté du peuple. L'exécution de Louis XVI, place de la Révolution, le 21 janvier 1793, c'est l'acte fondateur de la sacralité et de la souveraineté sacrée du peuple.
D'accord.
Et ça devient un moment extrêmement important, aussi important que celui de la prise de la Bastille, 2 ans auparavant, le 14 juillet 1789. Donc il y a un clivage qui, par la mort du roi, va être d'autant plus violent. Et puis, le procès et l'exécution du roi entraînent un second clivage, une seconde scission au sein même de la Révolution. Car ce que révèle le procès et les discussions afférentes au procès entre l'égalité, vous l'avez très bien dit dans le récit magnifique que vous avez prononcé tout à l'heure, et les principes au nom du droit naturel qui fait qu'on exclut les tyrans et donc les rois de ce droit naturel, tels que les énoncent Saint-Just et Robespierre, les discussions afférentes à la préparation du procès et au procès lui-même vont diviser la Convention entre, vous l'avez dit, entre les Girondins, qui ne sont pas royalistes pour autant, mais qui pensent que l'exécution du roi va faire du roi un saint et martyr, à juste titre d'ailleurs, qui pensent aussi que les conventionnels sont à la fois juges et partis, puisque ce sont eux qui ont fait l'insurrection du 10 août 1792 et qu'ils ne peuvent pas juger le roi, d'où l'appel au peuple, on appelle ces Girondins des appelants, et cette idée que la véritable souveraineté appartient au peuple et non à ses représentants conventionnels.
Est-ce que on peut y voir là l'esquisse du grand clivage politique traditionnel français jusqu'en 2017, la droite et la gauche ?
On peut y voir d'abord une crise majeure au sein même de la Révolution, au moment de l'exclusion des Girondins, puis de leur condamnation à mort, car après Louis XVI, les Girondins, vernus en tête, vont monter à l'échafaud. Donc la Révolution se divise pour la première fois. Et les germes de cette division sont contenus dans le procès de Louis XVI. Ça, c'est vraiment très très important.
Ah oui, on l'a vu dans le récit.
Et dans un certain sens, les uns et les autres sont des républicains. Mais dans un certain sens, les Girondins sont peut-être des défenseurs plus ardents de la propriété par rapport aux montagnards.
C'est-à-dire
même si les montagnards eux-mêmes à l'exclusion d'une frange extrême, défendent également la propriété. Mais la division, elle est plus dans la façon d'exercer le pouvoir républicain, qui serait une manière décentralisée du point de vue des Girondins, et une manière jacobine et centralisée du point de vue des Montagnards. Elle est là, en fait, il est là, le clivage.
Oui.
Et il est vrai que c'est un clivage qui traverse le 19e et une bonne partie du 20e siècle, et qu'on retrouve encore de nos jours. Peut-être qu'il existe aussi un autre clivage entre Girondins et Montagnards qui tient à la nature de la culture politique française. Les Girondins, dans un certain sens, relèvent plus d'une culture qu'on pourrait appeler une culture du compromis, alors que les Montagnards relèvent d'une culture de l'affrontement. Et ça, ce sont des traditions françaises que l'on retrouve
Quelle résonance.
Que l'on vit aujourd'hui.
Quelle résonance. Puisqu'on est sur les symboles et les mythes constructeurs, ou construits, on a parlé évidemment de la prise de la Bastille, du procès de Louis XVI, il y a peut-être aussi l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, qui pourrait... Après tout, pourquoi on a décidé le 14 juillet, fête nationale? Pourquoi pas le 4 août?
Ça a été discuté au moment où les pères fondateurs de la Troisième République se posent la question de savoir quel événement. Mais vous savez qu'on n'a jamais donné de date. On a tourné autour des deux 14 juillet, celui de 89, la prise de la Bastille, et celui de 90, la fête de la Fédération. Mais pour ne pas se diviser et pour ne pas se brouiller définitivement, les députés de la Troisième République, c'était d'ailleurs des sénateurs, à la fin des années 1880, vont finir par adopter le 14 juillet comme fête nationale, sans dire s'il s'agit du 14 juillet 1789 ou du 14 juillet 1790. Donc on ne sait toujours pas quelle date précise nous fêtons le 14 juillet.
Bien, il reste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez répondre en 30 secondes? Vous dites, chapitre 3 dans votre livre, Louis XVI, premier ami de son peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Alors, ça, c'est la rhétorique qui est développée par les constitutionnalistes au début de la Révolution en 1789, dans cette tentative de faire du roi le premier ami et le premier représentant des Français.
D'accord, le roi des Français.
Une tentative qui échoue, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure.
Bien, ce sera le mot de la fin, c'est court. Hein.
On aura bien c'est trop court.
Bah, je sais bien, il y a un récit aussi. Donc, ça s'appelle « Il nous fallait des mythes », Emmanuel Varesquiel. Le sous-titre est important. « La révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours » chez Talandier. Je vous le conseille, il est passionnant ce livre. Merci.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le procès de Louis XVI, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.